le 7-9.
Bienvenue dans le 7-9. Bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 9 septembre. Bonjour Anaïs Feugat.
Bonjour Nicolas. Bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, la crise sanitaire qui s'acharne sur les plus précaires d'entre nous. Baromètre annuel du Secours populaire publié ce matin et que nous vous révélons. Depuis le début de la crise du Covid, deux fois plus de difficultés financières pour les plus pauvres. Analyse en détail, Anaïs, après les autres titres.
Le sud-ouest de la France balayé par des orages intenses, 2 mètres d'eau dans les rues d'Agen, pas de victimes. La France rend hommage à Jean-Paul Belmondo cet après-midi aux Invalides, cérémonie simple et populaire. La parole des victimes au procès des attentats du 13 novembre. Et puis Éric Zemmour, acteur du débat politique national, dit le CSA. Conséquence, son temps de parole est décompté dès ce matin dans les médias. Nous serons avec notre spécialiste.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50, Léa.
Elle a illuminé le dernier jury du Festival de Cannes. Actrice, réalisatrice, activiste, elle vient nous parler du Bal des Folles, son dernier film, adaptation brillante du livre de Victoria Mas qui parle des femmes internées et soignées par le docteur Charcot au 19e siècle. C'est glaçant. Mais Annie Laurent sera avec moi à 7h50.
A tout à l'heure Léa, on se retrouvera évidemment pour le grand entretien de la matinale avec l'essayiste enseignant à Sciences Po, David Jaïz. Il publie le nouveau modèle français aux éditions Alary. Vous pourrez dialoguer avec lui bien sûr au 01 45 24 7000.
France Inter.
Ne plus savoir choisir entre renoncer à se soigner ou à se nourrir, acheter un vêtement ou payer son chauffage. 2 Français sur 3 vivant sous le seuil de pauvreté ne savent plus sur quelles dépenses faire des compromis. Baromètre annuel du Secours populaire publié aujourd'hui. La crise sanitaire aggrave la pauvreté. 45% des Français disent avoir perdu des revenus, mais c'est le cas de 58% des plus pauvres. Serge et Sylvette vivaient de peu avant la crise du Covid. Depuis, ils ont basculé. Rémi Brancato les a rencontrés.
Jusqu'en mars 2020, Serge gagnait 1000 euros en cumulant le RSA et des petits boulots, jardinage ou ménage, chez des particuliers qui se sont arrêtés brutalement.
Le beau-fils ou le gendre faisait les travaux de papy-mamie, les travaux que je faisais. Donc ça a réduit énormément mes ressources.
Divorcé, seul, le père de famille de 57 ans bénéficie aujourd'hui des paniers alimentaires du Secours populaire à Châtellerault.
J'étais déjà dans une situation qui n'était pas très reluisante, mais j'arrivais à m'en sortir, donc je disais youpi. Et là, pas du tout, quoi. On se sent vraiment... Le fait de demander de l'aide, on se sent clochardisé.
Comme lui, Sylvette, 71 ans, a vu ses revenus fondre, obligée de fermer sa boutique de prêt-à-porter faute de clients. Elle lui permettait de compléter sa retraite.
Et plus que la retraite, 750 euros.
Alors au bout d'un an, elle a passé la porte du Secours populaire le mois dernier.
J'avais besoin d'aide alimentaire, mais j'avais besoin aussi de contact. J'ai cotisé tout ce que je pouvais cotiser en son temps. Je suis une femme, j'ai dû avoir évidemment peut-être quelques trimestres en moins pour élever les enfants. Pourquoi j'ai pas une retraite correcte? Ah, c'est cette injustice que je ne supporte pas. Hein. À la fin d'une vie, à 70 ans, se retrouver avec 750 euros, ne pas sortir, ne pas faire rouler sa voiture, c'est indigne.
Sylvette invite aujourd'hui tous ceux qui vivent des difficultés à aller au-delà de la honte et à ne pas hésiter à demander de l'aide.
Et les chiffres complets de la 15e enquête du Secours populaire sont sur franceinter.fr. Hier, le Premier ministre a demandé aux partenaires sociaux d'ouvrir des négociations sur les salaires et les conditions de travail, en particulier pour les minima de branche dans l'hôtellerie, restauration, les industries agroalimentaires. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 reprend à 12h30 tout à l'heure au cœur de l'île de la Cité, avec la suite du recensement par ordre alphabétique des 1800 parties civiles. Quelques dizaines d'entre elles sans avocat sont allées hier jusqu'à la barre pour faire reconnaître leur statut. Moment éprouvant pour Linda, rescapée du Bataclan. Elle tenait à voir les accusés et qu'ils la voient aussi.
J'ai été très impressionnée et de les voir aussi près, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient si proches. Donc c'est vrai qu'on est très proche d'eux. Alors je ne les ai pas regardés avant de dire la seule phrase que j'avais à dire pour ne pas me laisser déconcentrer. Par contre, quand j'ai fait demi-tour et que je suis retournée à ma place, oui, je les ai quand même regardés.
Pourquoi ?
Pour voir peut-être s'ils étaient attentifs, peut-être pour leur dire on existe, on n'est pas des... On n'est pas que des noms, puisque toute l'audience avec les avocats, c'était juste des noms qui étaient cités. C'est-à-dire, on est aussi des personnes en chair et en os, et on existe. Moi, j'étais au Bataclan, et je suis restée dans la fosse. Et n'ayant pas été blessée, j'ai un peu du mal à me reconnaître véritablement victime.
Linda avec Sophie Parmentier qui nous fait vivre les 140 journées d'audience du procès. Le comportement de Salah Abdeslam sera encore scruté aujourd'hui. Le principal accusé a dit hier qu'il avait délaissé toute profession pour devenir combattant de l'État islamique. Difficile désormais de l'ignorer, Éric Zemmour est bien devenu un personnage politique. Bonjour Alexandra Hacoun.
Bonjour.
Spécialiste média à France Inter, c'est le CSA qui le dit. Éric Zemmour est acteur du débat politique national. Conséquence, dès aujourd'hui, les médias doivent décompter son temps de parole.
Et oui, chaque fois maintenant qu'Éric Zemmour prendra la parole à la télévision ou à la radio, son temps de parole devra être décompté et donner lieu, si besoin, à un rééquilibrage. À commencer par la chaîne d'info de Vincent Bolloré, CNews, où le polémiste intervient du lundi au vendredi dans l'émission Face à l'info, une parole qui, à chaque fois qu'elle portera sur le débat politique national et uniquement sur ce point, sera classée divers droite, un revirement pour le CSA dont le président Roch-Olivier Maistre estimait en début d'année que le gendarme de l'audiovisuel n'était pas un tribunal de l'opinion. Idem en juin, alors que le député européen Stéphane Séjourné appelait au classement d'Éric Zemmour dans les personnalités politiques. Il y a une semaine encore, c'était le député Europe Écologie Les Verts Mathieu Orphelin. Aujourd'hui, il salue cette décision.
En tant que candidat potentiel à la présidentielle, il doit tout simplement respecter les mêmes règles que tous les autres candidats et toutes les autres candidates à l'élection présidentielle.
Difficile en effet de continuer à faire la sourde oreille quand le LR Éric Ciotti, par exemple, déclare qu'en cas de second tour face à Emmanuel Macron, il voterait Éric Zemmour, même si celui-ci n'est pas encore officiellement candidat. Sur Twitter, l'intéressé estime que le CSA a pris le relais des juges. Je ne me tairai pas, promit-il.
Et le problème ne se pose pas d'ailleurs qu'à CNews.
Ben oui, parce que Éric Zemmour devait faire son retour sur CNews du groupe M6 dans l'émission Zemmour et Nolo le 29 septembre. Sur France 2, Laurent Ruquier et Léa Salamé doivent le recevoir samedi prochain. Pour tous, le casse-tête ne fait que commencer.
Merci Alexandra Hacoun. Toujours à l'extrême droite, longue interview de Marine Le Pen dans le Figaro aujourd'hui. Mot-clé liberté, proposition de la candidate du Rassemblement National pour le pouvoir d'achat, nationaliser les autoroutes et privatiser Radio France et France Télévisions. Le président de la République, lui, est cet après-midi aux Invalides pour l'adieu de la France à l'une de ses plus grandes vedettes. Hommage national à Jean-Paul Belmondo à partir de 16h30. Emmanuel Macron prononcera son éloge funèbre. Cérémonie simple et solennelle, Maxence Lambrec.
Après l'incontournable passage en revue des troupes et avant que le président ne s'exprime face au cercueil, il est prévu qu'un enfant ou un de ses 6 petits-enfants prenne la parole pour dessiner l'homme qu'il était loin des caméras. C'est avec la famille de Jean-Paul Belmondo que l'Élysée a préparé cette cérémonie. Une musique d'un film emblématique de sa carrière résonnera dans la cour d'honneur jouée par l'orchestre de la garde républicaine. Pour Charles Aznavour, ils avaient interprété « Emmenez-moi ». Aujourd'hui, Emmanuel Macron rendra hommage à celui dont le visage était un morceau de notre patrimoine, l'énergie, un hymne à la vie et le talent à un plaidoyer pour le 7e art. Ce sont les mots de son communiqué qui donnent déjà le ton de son discours, précise l'Élysée. Discours qu'il travaillera jusqu'au dernier moment. Et comme le souhaite sa famille, il n'y aura pas que des stars du showbiz dans l'assistance. Le public sera accueilli 1000 personnes dans les coursives au premier étage et 2 écrans géants à l'extérieur pour que cet hommage national soit aussi, comme lui, populaire.
Et émission spéciale sur France Inter à partir de 16h20 jusqu'à 18h.
Il est 7h09, c'est le moins qu'on puisse dire. On n'avait jamais vu ça à Agen.
Record absolu de pluie hier soir. 2 mois de précipitations tombées en 3 heures. 3000 éclairs dans le ciel de Lot-et-Garonne. Une bonne partie du centre-ville d'Agen inondée. Jean-Philippe Dargent, le directeur de cabinet du préfet du Lot-et-Garonne.
Pas de victimes à déplorer. Des dégâts matériels au sein notamment de certaines entreprises. Des dégâts des eaux assez importants. Et nous avons à l'heure où nous parlons encore 4 routes départementales qui sont coupées, dont 2 qui devraient être rétablies dans le courant de la matinée. On est sur les secteurs où l'eau a été la plus haute, à 1,50 m environ, jusqu'à 2 mètres pendant de courts instants à certains endroits. Effectivement, ça a été un épisode extrêmement intense et subi. Et avec l'arrivée du jour, naturellement, il est fort probable que certains dégâts soient mis en lumière. Les personnes qui le nécessitaient ont pu être mises à l'abri.
Et ce matin, plus aucun département n'est en vigilance orange. aux orages. Alors qu'à Marseille, le Congrès pour la conservation de la nature se penche depuis hier sur une trentaine de motions qui seront dans la déclaration finale. L'une d'elles concerne la protection des vieilles forêts d'Europe menacées en Roumanie ou en Pologne. En France, elles sont plutôt bien traitées mais fragiles. Reportage de Célia Kiré au nord de Marseille.
Sous la falaise et le monastère de la Sainte-Baume à 900 mètres d'altitude, les hêtres présents depuis 200 ans paraissent solides, tels des gardiens de ce lieu sacré, mais certains souffrent du réchauffement, leurs feuilles ne jouent plus le rôle de parasol. Brigitte Muche, généticienne à l'Office national des forêts, lève les yeux pour le voir.
Si on regarde ces hêtres qui sont juste en face de nous, on voit le ciel à travers. C'est absolument pas normal. Quand vous êtes sous un hêtre, là ici, vous essayez de regarder le ciel et normalement vous ne devez pas le voir. Donc ça veut dire qu'il manque entre 50 et 70% du feuillage. Il est très sensible au coup de soleil. Lorsque vous avez une ouverture, comme ici, vous voyez la lumière qui rentre dans le massif, vous avez des coups de soleil qui se font sur le tronc et il en meurt.
Or, le hêtre, apparu ici il y a 8000 ans, est une essence assez rare en Méditerranée. Des insectes, des oiseaux en dépendent. Pour Daniel Valori du WWF, il faut que ces vieilles forêts soient mieux protégées, surtout en Europe de l'Est.
Dans beaucoup de cas, notamment en Europe centrale et de l'Est, elles sont menacées par l'exploitation forestière qui ne permettrait pas à certaines espèces de se maintenir. Donc on a besoin de protéger ces hauts lieux en fait, de la biodiversité en priorité, de pouvoir permettre qu'elles soient protégées dans la durée à vitam aeternam.
Ces vieilles forêts représentent moins de 3% des espaces forestiers en Europe, mais certains pays ne vont peut-être pas accepter de les laisser tranquilles. Les enjeux économiques et environnementaux ne sont pas toujours compatibles.
La biodiversité s'effondre et c'est aussi une mauvaise nouvelle pour le monde de la finance. C'est à lire aussi sur franceinter.fr. À l'étranger, les résultats sont encore provisoires au Maroc, mais le parti islamiste subit une véritable déroute électorale. De ses 125 sièges, il n'en garderait que 12. Vainqueur de ses législatives, les partis libéraux. En Afghanistan, les talibans autorisent 200 civils américains à quitter le pays. Les départs sont prévus aujourd'hui. Retour à Paris et au Grand Palais éphémère sur le Champ de Mars. Ouverture de la première foire d'art en France depuis un an. 20 pays, 40% de nouveaux participants pour un marché qui se porte bien, Isabelle Pasquier.
Il y a un véritable engouement puisqu'il est midi 17 et tous les tableaux sont déjà vendus. Nous travaillons maintenant du coup sur liste d'attente pour que des collectionneurs puissent acquérir des tableaux.
Une heure après l'ouverture de la foire, Pauline Pavec a déjà vendu tous les tableaux de grands ciels enflammés du jeune artiste Adam Boguet. Sous la voûte bleu nuit du Grand Palais éphémère, les collectionneurs achètent ce que la plupart n'ont pas arrêté de faire pendant le confinement.
La crise n'a pas empêché les collectionneurs et les amateurs d'art contemporain de suivre tous les artistes qui les intéressent parce qu'en fait, on est tous connectés sur les réseaux sociaux. Effectivement, pendant ce confinement, moi j'ai continué à acheter des œuvres à distance.
Et les chiffres confirment cet engouement pour l'art contemporain pendant la crise sanitaire. Record du nombre de transactions en France et au niveau mondial, explosion de l'art contemporain dans les galeries et les ventes aux enchères. Jean Minguet, économiste chez Art Price.
Il y a un segment du marché de l'art qui a vraiment, vraiment profité, on pourrait dire, de la crise. C'est celui de l'art contemporain. Par rapport au premier semestre 2019, on enregistre une croissance de plus de 50% du produit de vente.
Pendant la crise, les collectionneurs ont donc continué d'acheter par passion. Les spéculateurs ont misé sur la valeur refuge de l'art, comme si le marché de l'art, avec ses anticorps, se nourrissait de la crise sanitaire.
Le reportage d'Isabelle Pasquier.
Merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, le zoom sur les vétérans américains en proie au doute à 2 jours des commémorations du 11 septembre.